comme j'attendais que notre entrevue démarre, je me suis dit, bah, j'ai envie de saluer les gens qui vont écouter ma voix dans 50 ans. Yes! Normalement, à ce moment-là, dans 50 ans, j'en devrais en avoir 125. Est-ce que je serais morte? Il y a des chances. Voilà, le rapport de la mort pour moi. Autrefois, c'était le terrible, l'inconnu, l'indicible, pas assister aux enterrements, la pourriture, le néant total après. Et puis, tardivement, au-delà de 60 ans, un métier d'écriture auprès des autres, d'écrivain public, et puis rencontre d'un travail qu'on appelle éloge funèbre. Donc, contacter des familles, travailler avec des opérateurs funéraires, et cela conjointement à des morts proches, mais mes morts principaux, à savoir mon frère, c'est mon premier mort initiatique. Il est mort jeune parce qu'il a divagué, il a picolé trop, il a pris de la drogue et c'était sans doute un hypersensible. Et il a mal terminé sa vie et très tôt. Voilà, et c'est à l'occasion de ses funérailles que j'ai été sollicitée par ma famille pour animer, j'étais pas seule, la cérémonie, et en particulier mon fils et moi, on a lu un conte que mon frère avait écrit, sachant que dans cette pièce de cérémonie du crématorium des Ulysses dans l'Essonne, il y avait une centaine de personnes présentes, et le conte a été assez long, il était très beau, une histoire en regard de sa vie de famille, quoi. Le jardinier double-double et la fée moitié. Et on a été applaudis. Voilà, donc applaudissements surprise. Donc, comme quoi on peut faire des cérémonies autrement. Et puis, il se trouve que l'opérateur funéraire, c'est un monsieur qui coûte cher, comme beaucoup de gens du funéraire, malheureusement, mais qui est très bon animateur et très bon maître de cérémonie. Et on a fait un échange de cartes de visite, dans la perspective que je travaille pour accompagner les familles. Voilà. Donc, mon frère, c'est mon premier vrai mort. Voilà. Comme s'il m'avait... avant que son cercueil n'aille au feu, il faisait un clin d'œil et il me transmettait de quoi bosser. Voilà, c'est avec humour, hein, je dis ça, mais c'est... Voilà. 3 années plus tard, c'est mon père. Et là aussi, j'ai été sollicitée pour animer, quoi. Donc, c'était le même opérateur funéraire. Et puis, j'ai commencé à comprendre ce qu'était l'importance des rituels pour... il y a des cérémonies. En particulier, mon père ayant été architecte, j'avais récolté des paroles autour de moi et j'avais découpé des petites maisons en papier blanche avec des petites ouvertures, mises sur des grandes tiges pour faire un beau bouquet. Et sur chaque petite maison, il y avait sa date de naissance. Sur certaines maisons, il y avait toutes les voitures qu'il a eues dans sa vie, hein, depuis la Rosengart jusqu'à... c'était une voiture japonaise en finale. tous les lieux où il a habité. Et pendant le pot qui a suivi la cérémonie et en attendant la crémation, c'est le pot de souvenirs, les uns et les autres allaient voir, les cousins, les amis, ils voyaient les maisons et ça les faisait causer. Et puis j'ai découvert aussi le poids de l'humour. Un de ses voisins amis, mon père allait toujours arroser le jardin, et un jour il a fait une grosse farce, et ça a été raconté pendant la cérémonie. Pendant que Guy et sa femme Marie-Christine étaient partis, il a peint les tomates en rouge. Et ce qui veut dire que c'était un super clin d'œil honorant pour mon père qui avait beaucoup d'humour. Et puis une histoire un peu drôle, au lieu que ce soit des éloges fastidieux. Voilà. Donc, et depuis, j'ai sacrément cheminé parce que je me suis intéressée forcément à la fin de vie, au funéraire. Et puis, du coup, ces derniers temps, j'ai l'impression d'être assaillie par un questionnement sur l'au-delà. Avant, j'étais une athée invétérée. Et maintenant, je me pose des questions, mais il y a tellement de témoignages que c'est impressionnant.
Et est-ce que tu peux nous dire ton lien avec les cafés mortels, comment tu as découvert cette...
Bien sûr. Donc, embarquée dans cette pratique professionnelle d'écrivain public, c'était mon dernier job, jusqu'à ma retraite et même encore maintenant. Je suis partie sur les éloges funèbres avec un opérateur funéraire. Et puis, bah, du coup, j'ai commencé à m'intéresser. Et donc, ah oui, c'est quand même la rencontre avec le Café Mortel, c'est extraordinaire. Je suis dans un groupement professionnel d'écrivains publics ou écrivains conseils. J'anime un atelier pour mes collègues parce que, ben, c'était des femmes surtout. Elles écrivaient super bien ou faisaient bien écrire ou écrivaient bien pour, mais la mort, ouf, voilà. Donc, nous, elles sont, je sais pas, 5 ou 6 et une est retardataire. Et elle vient de l'est de Paris, on est à Paris. Et elle est toute affolée, moustillée. Et elle tient une page de journal. Et elle te couvre, elle nous fait voir les cafés mortels. Et sachant qu'elle venait de prendre le RER, qu'elle s'était assise en face d'elle. Il y avait un homme qui lisait sur son journal la portion du sport. Et elle voyait la page sur les cafés mortels. Et donc, elle demande au monsieur, est-ce que vous pourriez me donner cette page, sachant que lui, il s'intéressait qu'au foot, au sport. Et donc, il lui donne la page. Et comme elle était un peu speedy, elle sort de la rame. Et puis, un coup de vent. Et la feuille tombe sous le RER. Elle a été obligée de racheter. Je crois que c'était le Parisien. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a découvert les cafés mortels. Voilà. Donc, les cafés mortels, je peux dire un peu d'où ça vient. Donc, les cafés mortels, c'est une invention d'un ethnologue, sociologue, suisse, Bernard Creta, parce qu'il y a un Z au bout, mais ça ne se prononce pas, qui a énormément travaillé sur la mort, avec sa femme aussi. Ils ont même créé une fondation en Suisse, dans le Valais suisse. Et grâce aux traditions suisses qui préparent beaucoup, ils préparent le vin qui va leur servir, les meules de fromage. Il y a des rituels et puis ben, il y a des cafés dans les villages, on a l'habitude. Et ben, il a trouvé que poser un coude sur un comptoir et parler de la mort, c'était aussi bien. Donc il a eu l'idée de faire naître cette idée de parler de la mort de façon païenne, en buvant un coup. Voilà. Donc ça s'est répandu dans le monde entier. Il n'a pas mis de copyright, ça appartient à tout le monde. Et c'est vraiment l'idée de se réunir et en toute simplicité laisser la parole surgir, sortir la mort du secret. Il a aussi dit que c'était aussi comme si on était des rebelles, parce que c'est un tabou la mort. Et là, en parlant, en se donnant le droit de parler, c'est démystifier et oser parler, quoi, voilà. Donc Bernard Crétaz, il a créé ça en 2004. Et puis là, ça s'est bien répandu. Moi, je suis beaucoup venue à des rencontres écologistes, écologie au quotidien, qui, on est en 2026, depuis les années 2000, animent des grands forums annuels où il y a des tas de conférences, des tas d'ateliers qui sont sur notre société, sur l'humanité. Et en 2014, il est survenu l'idée de faire un café mortel, en fait, d'oser parler de la mort, quoi. Voilà, donc le café mortel est arrivé par mon entremise avec Écologie au quotidien en 2014, dans le cadre de ce grand forum de 10 jours, qui était accompagné par ailleurs de la projection d'un film que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si on le rencontrera encore dans 50 ans, mais c'est « On ne mourra pas d'en parler ». Voilà, c'est un film fait par une réalisatrice québécoise, Violette Dano, et qui nous montre des témoignages qu'elle a récupérés, dont le sien d'ailleurs, elle s'implique. Donc, projection de ce film, Café Mortel au Mero's Pub, 50 personnes, waouh! Et puis, un atelier d'écriture, puisque ça, c'est mon truc. Et donc, faire écrire, faire même rire les gens sur ce sujet. Voilà, donc c'est arrivé en 2014. Et puis, les années ont passé, ça n'a pas été repris, ça a repris en 2022. Pendant 2 ans, on avait carrément une réunion mensuelle. Il y a le bouche à oreille dit qu'il y a vraiment une ville dynamique, socialement, culturellement. Voilà, donc le Café Mortel s'est bien inscrit. Et c'était incroyable de voir que les gens sont venus, quoi, en fait. Et voilà, donc. Et puis il y a un petit arrêt. Et puis bah, depuis, nous sommes en 2026, depuis le début de l'année, il y a un nouveau collectif qui recommence à animer des Cafés Mortels. On essaye d'alterner. On écluse tous les bars de la région, soit à 10, soit dans les alentours. C'est sûr que les bars associatifs, les cafés associatifs, c'est plus commode que les BC. Éventuellement, c'est prévu pour. On boit vraiment un coup pour parler de la mort. politiquement sur la ville de Die, difficile de dire. Je ne peux pas vraiment. Ce que je peux dire, c'est qu'on voit quand même une familiarité. Moi, quelquefois, quand je me promène, je rencontre des gens j'ai des mini cafés mortels dans la ville. Par contre, sur l'ensemble, il n'y a pas encore eu de démarche de notre collectif sur un lien, par exemple, avec la commune, qui est responsable des cimetières, par exemple, pour changer les choses. Ça, je ne peux pas vraiment dire. Par contre, au résultat de ce qui est entendu ou vu dans les cafés mortels, on sent qu'il y a une parole qui se lève et des gens qui sont venus éventuellement très craintifs, en ayant vraiment, qui ressortent en se disant « mais ouf, ça fait du bien ». Un étonnement de pouvoir me sentir beaucoup moins craintive, hein, puisque j'avais dit. Et puis un changement de point de vue et ne plus avoir cette peur que je rencontre encore chez beaucoup de personnes. J'ose aller dans les cimetières, j'ai déjà aidé un opérateur funéraire à transporter un corps, je viens d'accompagner une amie qui est morte, je suis allée la voir en soins palliatifs. Donc je ne me retrouve pas professionnelle puisque je suis bénévole, mais c'est ne plus avoir peur d'oser en parler. Ça, c'est un premier point. Et puis l'autre point, c'est une avancée dans la spiritualité. Ça, c'est évident. C'est du coup une appréhension sur la réalité de la mort. Et puis, puisqu'il y a la mort au bout de la vie, il y a vraiment du coup un changement intérieur qui peut se faire. Alors sans prétention, sans religion surtout, s'il vous plaît. Pour ma part, voilà, mais c'est les grands... Et l'acceptation aussi, pour moi, de la mort. Et puis, la conviction que c'est vraiment bien d'en parler, qu'on ne meurt pas d'en parler, et que c'est vraiment précieux de l'intégrer, de faire avec, et puis, du coup, tout ce qui va être... Il y a des deuils qui sont carrément morbides, à mon avis. Alors que si on parle avant de la mort, comme d'un sujet... Et puis de découvrir aussi qu'il y a une littérature extraordinaire, quoi, quand on s'y penche. Il y a des films aussi. Et c'est vaincre le tabou. Ouais, aller au-delà du tabou et une confiance pour oser en parler. Quoi, oser en parler, c'est presque c'est rassérénant, en fait, à dire vrai. C'est sûr que d'être confronté avec un questionnement sur l'au-delà, sur la vie possible après la mort, le contact avec les défunts, la réincarnation, etc., c'est assez bouleversant. Je suis en étude. Sinon, au point de vue du ressenti très personnel, quand j'ai travaillé avec cet opérateur funéraire en région parisienne, j'étais assez souvent appelée le week-end. Donc je pouvais me rendre en famille. J'ai même eu une fois où j'avais 8 personnes autour de moi. C'était un vrai atelier. Il y avait la veuve, les enfants, des amis. Donc chacun, on fabriquait les funérailles, quoi. Et quand j'étais appelée, je ne sais pas comment ça se fait, mais j'avais l'impression de partir dans un autre état. Hier, je suis à Toulouse, j'attends un train et je m'assieds à une table pour prendre une salade et en face de moi, il y avait un monsieur, puis tout d'un coup, il reçoit un coup de téléphone et là, j'ai aperçu les difficultés des uns et des autres. Il est appelé par quelqu'un qui lui demande des nouvelles et il parle d'une personne qui vient de mourir et qui l'a accompagné et je l'ai entendu déplorer l'absence de la femme de cet homme, du fils de cet homme qui n'ont rien fait. Lui devait être, je crois, j'ai l'impression, un frère, un cousin, je ne sais pas. Il a dû tout prendre en charge. Lui semblait avoir compris. Il est allé d'ailleurs rendre visite en soins palliatifs à cet homme. Il est allé au-devant, il l'a accompagné jusqu'au dernier souffle. Et puis après, il a fallu organiser, inviter les gens pour les funérailles. Et du coup, là, c'est juste que, comme je suis aux aguets, là, il était vraiment en face de moi. Et j'ai encore mesuré combien c'est drôlement difficile dans notre société d'aborder la mort, quoi, en fait. Voilà. Et que, du coup, ce que j'ai appris avec toute mon expérience, c'est d'avoir moins crainte, y compris d'être ici interviewée dans un cimetière, assise sur une margelle de tombe. Et voilà. déjà dans l'intériorité, l'acceptation de la mort, avoir moins peur, se préparer au deuil, aller au-devant. Mon grand questionnement, là, c'est ce qui me survient. J'ai tellement de témoignages sur tout ce qui est de l'au-delà, y compris de scientifiques, hein, de médecins, de psychiatres, de gens qui font des recherches, j'écoute aussi des podcasts, des émissions, où je lis des témoignages de médiums. Voilà. Donc ça, c'est la grosse question. Mais sinon, c'est aussi, en ayant moins peur et d'aller au-delà, quand on a moins peur, ben on vit mieux, tout simplement. Voilà. Et puis c'est un champ énorme quand on commence à regarder l'univers funéraire dans le monde entier, toutes les traditions à Madagascar. Et, ici, quand on sort un cadavre, parce qu'on doit faire une enquête, etc., pour revoir, enfin, pour explorer, parce qu'il y a une enquête à Madagascar, ils sortent carrément les morts, ils leur font la toilette, ils leur nettoient le squelette. Je ne sais pas d'où vient cette peur de la mort, mais c'est ça que ça fait découvrir. Du coup, si à l'intérieur de moi j'ai moins peur, ben je vais mieux dans mon fort intérieur.